Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci de nous retrouver pour une nouvelle saison de Métropole et vous. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et que pour ceux qui reprennent le chemin du travail, la reprise n'est pas trop difficile. Qui dit fin des vacances dit aussi rentrée des classes, bien sûr, mais aussi rentrée universitaire. Toulouse est une des principales métropoles universitaires de notre pays. Il me semblait donc judicieux, pour ce premier numéro de la saison, de faire un état des lieux un peu détaillé dans ce secteur. À quoi ressemble le paysage universitaire métropolitain? Quelle est la situation université par université, discipline par discipline? De quelle notoriété bénéficie notre pôle universitaire? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder au cours de ce numéro intitulé « Université toulousaine, état des lieux et perspectives avant la rentrée ». Et pour nous aider à répondre à ces questions, il fallait quelqu'un qui connaisse bien l'institution universitaire toulousaine. Nous avons la chance de l'avoir dans ce studio en la personne de Philippe Rimbaud, président de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Merci beaucoup, monsieur le président, de nous faire l'honneur de votre présence et d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que tout le monde, ou presque, connaît les piliers du pôle universitaire toulousain, que sont l'Université Toulouse-Jean-Jaurès au Mirail, l'Université Paul-Sabatier à Rangueil et l'Université Toulousain-Capitole. En revanche, je doute que le terme « Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées » soit familier à beaucoup de nos auditeurs. Alors, quand on dit « Université fédérale », de quoi parle-t-on précisément? Qu'est-ce que ça recouvre?
Cela recouvre une structure qui est une structure de coopération entre les différents établissements universitaires, non seulement de Toulouse, mais aussi de l'ensemble de l'Académie de Toulouse ou de l'ex-région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, cela représente 23 établissements d'enseignement supérieur et 6 organismes de recherche.
Et donc là-dedans, il n'y a pas que l'université, justement.
Tout à fait. Il y a bien sûr les 3 universités que vous avez citées tout à l'heure. Il y a également l'Institut National Polytechnique qui a un statut d'université, mais qui est déjà une fédération d'écoles d'ingénieurs. Il y en a 6. Et puis, il y a toute une série d'écoles d'ingénieurs. On en a plusieurs. D'écoles spécialisées, comme l'école vétérinaire, l'école d'architecture, Sciences Po, Toulouse Business School. Bref, des écoles qui vont intervenir dans des domaines spécifiques de formation.
Bon, on rentrera encore un peu plus dans le détail au cours de cette émission. Merci pour toutes ces précisions, cette présentation de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Nous allons développer le sujet dans quelques minutes. Pour l'instant, il est l'heure de retrouver le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix. Elle fait aussi sa rentrée dans cette émission Métropole et vous, l'actu. Et parmi les informations de cette rentrée, une bonne nouvelle. Dans la compétition des villes étudiantes les plus appréciées, Toulouse conserve sa place sur le podium.
Le classement du magazine L'étudiant sacre la ville rose pour sa qualité de vie étudiante derrière Lyon et ex aequo avec Grenoble. Chaque année depuis 11 ans, la rédaction passe au crible une quarantaine de villes universitaires et étudie les conditions de logement, d'études, de sport, les sorties, culture ou encore les transports pour savoir quelle est la ville où la qualité de vie est la meilleure pour étudier. La ville est donc troisième au classement général dans l'évolution du nombre d'étudiants sur 10 ans, deuxième dans le domaine des transports et surtout premier au classement général et au classement des métropoles pour le dynamisme de l'emploi. Il ne manquerait plus que l'attribution définitive du label IDEX pour peut-être se hisser sur la première marche du podium. Depuis mars dernier, l'université s'organise pour mettre en œuvre les transformations indispensables à la création d'une université de recherche intégrée de rang mondial.
La rentrée, c'est aussi souvent la recherche d'un emploi étudiant pour financer ses études ou tout simplement pour se lancer dans une aventure professionnelle.
À cette occasion, l'université a ouvert les candidatures au statut d'étudiant entrepreneur 2017-2018. Ce statut permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d'élaborer un projet entrepreneurial. Le diplôme d'établissement étudiant entrepreneur accompagne ce statut et permet de mener à bien son projet avec un maximum de sécurité et de visibilité.
Et que faut-il faire pour bénéficier de ce statut?
Eh bien, 3 conditions doivent être réunies. Il faut être étudiant ou le redevenir via le diplôme étudiant-entrepreneur. Le baccalauréat ou l'équivalent sans niveau est la seule condition de diplôme requise pour une inscription au diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur porté par l'Université fédérale de Toulouse. Il faut avoir un projet entrepreneurial, mais aussi être sélectionné par le comité d'engagement du Pépite-Écrin, constitué des établissements d'enseignement supérieur et de partenaires sociaux mesures économiques.
Après la sélection, comment les choses se passent-elles ensuite ?
Le statut est octroyé donc par le Pépitécrin. Un parcours de formation et d'accompagnement spécifique est alors proposé à l'étudiant pour favoriser l'émergence de son projet en fonction bien sûr de son degré de maturité et de son ampleur. Plus de renseignements sur le site internet www.unive-toulouse.fr.
Pour terminer, une information qui nous concerne tous. Au cœur des projets de la métropole toulousaine, il y a le projet Mobilité 2020-2025-2030.
Ce plan de déplacement urbain a pour objectif de développer un réseau de transport performant au plus près des besoins des usagers de la grande agglomération toulousaine. Le projet Mobilité comprend plusieurs actions structurantes et complémentaires, comme la troisième ligne de métro, le doublement de la capacité de la ligne A, le téléphérique urbain sud et le réseau de bus Linéo. Il intègre également le développement urbain et l'organisation des réseaux routiers sur les territoires. Au total, 3,8 milliards d'euros sont investis en 15 ans en faveur des transports en commun. Une enquête publique est ouverte depuis le 4 septembre jusqu'au 10 octobre sur le projet des mobilités.
Philippe Rimbaud, parmi ces informations de la semaine, il y en a deux qui vous concernent de près. Tout d'abord, cette deuxième place de Toulouse dans le classement du magazine L'Étudiant. Quelle réaction ça suscite de votre part ? Est-ce que vous y attachez vraiment de l'importance à ce genre de classement ?
Oui, une certaine satisfaction dans la mesure où ce type de classement ici est basé quand même sur une série de critères tout à fait sérieux qui permettent de mettre en exergue la qualité de l'accueil que l'on peut proposer aux étudiants. Donc il est vrai que bien figurer dans ce classement est un élément important pour nous. C'est aussi un marqueur de la reconnaissance du travail qui est accompli, puisque dans les deux grands critères qui ont été mis en exergue pour la qualité de la vie étudiante à Toulouse, il y a d'une part, alors quelque chose qui ne dépend pas de nous, c'est la qualité de l'offre en matière de transport public, mais on se satisfait du maintien du tarif à 10 euros par mois pour les étudiants, puisque ça en fait le tarif le moins cher de France. Et puis, il y a quelque chose qui, en revanche, est totalement lié à notre action, c'est l'accueil Welcome Desk, c'est-à-dire un lieu d'accueil centralisé qui est situé aux allées Jules Guedes et qui permet à un étudiant arrivant, qu'il soit français ou étranger, de trouver toute une série de services dont il a besoin, puisque la CAF est installée dans ses locaux, la préfecture pour les étudiants étrangers est installé dans ces locaux. D'autres partenaires viennent en période de rentrée. C'est un lieu qui est ouvert toute l'année et où on retrouve un ensemble de services, encore une fois, une offre complète qui est véritablement aujourd'hui quasi unique au niveau national.
Puis il y a eu cette information là sur le statut d'étudiant entrepreneur ouvert par l'université. Vous avez peut-être quelques précisions à y apporter ?
C'est un sujet que l'on travaille depuis quelques années et qui devient une véritable priorité, puisque on considère aujourd'hui que l'économie évolue de manière majeure, que le salariat n'est peut-être plus, ça reste évidemment majoritaire, mais en tout cas il est concurrencé par d'autres formes de travail et que beaucoup de jeunes étudiants, pas seulement, mais notamment ceux qui travaillent sur le terrain de l'économie digitale, sont aujourd'hui extrêmement intéressés par ces nouvelles formes de travail. Donc on y travaille, c'est vraiment un sujet que l'on approche avec toute une série de partenaires. Les collectivités territoriales nous accompagnent, que ce soit la région ou Toulouse Métropole, mais aussi les partenaires socio-économiques. J'ai vu la semaine dernière Alain Di Crescenzo, et on va travailler avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie pour promouvoir cette forme d'accompagnement vers l'entrepreneuriat, la sensibilisation d'une part, la formation, c'était bien mis en exergue dans votre reportage.
Eh bien, nous voilà déjà au cœur du sujet, nous allons maintenant le creuser. Je rappelle le thème de cette émission, Université toulousaine, état des lieux et perspectives avant la rentrée.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Suite de Métropole et vous avec notre invité Philippe Rimbaud, président de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Maintenant que nous en savons plus sur ce qu'est l'Université fédérale, j'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon complet du pôle universitaire toulousain. J'ai parlé tout à l'heure des trois grandes entités de ce pôle universitaire, l'Université Toulouse Jean Jaurès au Mirail, l'Université Paul Sabatier Rangueil et l'Université Toulousain Capitole. Jean Jaurès au Mirail, ce sont les lettres, les langues, les sciences humaines. Paul Sabatier Rangueil, ce sont les disciplines scientifiques, ce qu'on appelle les sciences dures, la médecine entre autres. Toulousain Capitole, c'est le droit et l'économie. Mais l'université à Toulouse n'est pas que ça, et d'ailleurs ce n'est pas qu'à Toulouse. Quelles sont les autres antennes universitaires dans la métropole et même dans la région, puisque c'est Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées?
Il y a tout d'abord, je l'évoquais tout à l'heure, des écoles d'ingénieurs qui sont nombreuses à Toulouse, qui sont diversifiées, puisqu'on va en avoir qui sont spécialisées notamment sur le domaine de l'aéronautique, de l'aviation, comme l'ISAE Supaéro ou l'ENAC. On en a aussi qui sont membres d'un groupe national, je pense notamment à l'INSA. Ce qui veut dire qu'on a tous les modèles d'écoles d'ingénieurs, celles qui prennent juste après le bac, type INSA, celles qui vont prendre après une prépa, les écoles de l'INP Toulouse notamment. Et on a vraiment toute une série de spécialisations qui sont possibles, qui couvrent quasiment l'ensemble des champs de l'ingénierie. Donc ça, c'est un élément en plus et qui constitue une force spécifique du site toulousain, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans la région, puisque à Tarbes, il y a l'ENIT, qui est membre de l'INP, et que par le biais de Champollion, à Castres, on a une école aussi d'ingénieurs. Donc on a véritablement un pôle ingénierie qui est extrêmement fort. Ensuite, il y a d'autres types d'écoles qu'on appelle parfois des écoles un peu rares sur le territoire, qu'on ne va pas retrouver dans l'ensemble des villes universitaires. Je pense à l'école vétérinaire, il y en a 4 en France, je pense à l'école d'architecture, je pense à Sciences Po, qui sont là aussi des écoles qui permettent de différencier notre territoire et qui donc participent évidemment à son attractivité. Dans l'ex-région Midi-Pyrénées, il faut bien voir qu'on a 11 villes universitaires. Il y a évidemment Toulouse qui, quantitativement, est de loin le plus gros pôle. Mais on a ensuite Tarbes, Albi, qui sont des pôles extrêmement importants. Et puis, de l'activité universitaire dans toute une série d'autres villes, même si, évidemment, ce n'est pas une activité qui va couvrir, dans ces cas-là, l'ensemble des disciplines. Mais on va retrouver des pôles universitaires à Foix, à Auch, à Tarbes, je le disais tout à l'heure, à Castres, à Rodez, etc. On a 11 villes universitaires.
Et sur le territoire de la métropole toulousaine, est-ce qu'il y a des communes qui ont aussi des antennes de l'université ou d'autres écoles?
Alors, il y a l'IUT de Jean Jaurès qui est à Blagnac. Voilà. On va avoir des débordements, si je puis dire, sur l'Abège, sur Ramonville, notamment puisque le campus de Rangueil, la raquette même s'achève
à la limite, mais il y a
des débordements. Et puis il y a tout le volet Hauteville aussi où on va avoir quelques, à la fois des écoles et puis l'INRA aussi qui est présente là-bas.
Si on parle chiffres maintenant, combien y a-t-il d'étudiants dans les universités toulousaines et comment ces effectifs évoluent-ils?
Alors, le nombre d'étudiants est autour de 100 000. On n'a évidemment pas à ce stade de la rentrée un nombre encore très précis, mais si on prend les dernières années, on avait un peu plus de 30 000 étudiants à Jean Jaurès, un peu plus de 30 000 étudiants à Paul Sabatier, un peu plus à Paul Sabatier qu'à Jean Jaurès, mais avec des chiffres qui ne sont pas extrêmement différents. Plus de 20 000 étudiants à Toulouse 1 Capitole. Et puis ensuite, les écoles d'ingénieurs qui rassemblent quasiment 10 000 étudiants, les écoles spécialisées. Bref, on arrive à un ensemble d'environ 100 000 étudiants. La croissance du nombre d'étudiants est importante cette année. On le voit avec des tensions dans certaines disciplines et elle ne va faire que s'accentuer. Puisque là, dans les 10 ans à venir, au niveau français, on s'attend à 300 000 étudiants de plus, ce qui est absolument colossal. Et donc, il y aura encore un mouvement d'extension dans les prochaines années.
Donc en termes d'effectifs, comment se positionne Toulouse, le pôle toulousain, par rapport aux autres grandes métropoles françaises?
Alors si je mets à part Paris, puisque ce n'est pas tout à fait comparable, on est troisième ville ou métropole de province, puisque Lyon se situe vraiment clairement deuxième avec plus de 150 000 étudiants. Ensuite, Toulouse et Lille
au coude à coude
autour de 100-110 000 étudiants.
Alors j'ai parlé des effectifs d'étudiants, mais aussi des effectifs de professeurs, d'enseignants. Mm-hmm. De combien sont-ils ceux-là?
Alors, en fait, on a plutôt tendance à considérer à la fois les enseignants-chercheurs et les chercheurs des organismes. Et là, ça représente environ 10 000 personnes à Toulouse.
Et je suppose que c'est aussi en croissance, sans doute.
Alors, pas autant qu'on voudrait, hein, parce que les moyens publics
sont
plutôt
au même rythme.
Non, pas tout à fait. Il y a eu, ces dernières années, dans les universités, une augmentation du nombre de postes, donc notamment d'enseignants. Mais c'est vrai que ça ne suit pas le rythme de l'augmentation des étudiants.
En tout cas, c'est 10 000 qu'il faut avoir en tête. Une information qui me semble importante de préciser, c'est le nombre de nationalités représentées parmi les étudiants toulousains et aussi les effectifs de ces étudiants étrangers.
Alors, les effectifs des étudiants étrangers, c'est à peu près 16%. Donc, on est entre 15 et 17 000. Là, il n'y a pas d'énormes variations. Ça fait plusieurs années qu'on est autour de ces chiffres-là. Le nombre de nationalités, il est extrêmement étendu. Il est très difficile de vous donner un chiffre précis, mais on est au moins à 80 nationalités représentées. Et pour vous donner un exemple, on a plus de 25 nationalités pour lesquelles on accueille plus de 150 étudiants. Donc c'est déjà tout à fait colossal, avec très régulièrement les étudiants venus du Maroc et de Chine qui arrivent vraiment quantitativement en tête. Et s'agissant de la Chine, ça ne devrait faire que s'amplifier, puisque Il y a des programmes à la fois chinois pour inciter les étudiants à sortir et des accords franco-chinois pour augmenter le volume des étudiants accueillis.
Alors sans doute aussi beaucoup d'Afrique du Nord, Afrique francophone, hein, beaucoup.
Oui, en fait, tout le pourtour méditerranéen est pourvoyeur de beaucoup d'étudiants. C'est à la fois les pays européens, Espagne, Italie, un petit peu Grèce, mais dans une moindre mesure. Et puis évidemment, les pays qui sont de l'autre côté, côté africain, avec le Maghreb qui est un pourvoyeur important d'étudiants.
Alors, est-ce que cette grosse population d'étudiants étrangers suppose un accueil spécifique à l'université fédérale ? Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont liés, problèmes de langue, hein,
Alors, bon, un peu, mais pas énormément, parce que en tout cas, en ce qui concerne ces populations-là, on est vraiment sur une population qui est initialement francophone. Ceci dit, il y a évidemment, pour les étudiants étrangers, il y a la mise en place de tout un travail sur, puisqu'ils sont soumis à une législation spécifique,
oui.
D'où le fait que la préfecture soit présente dans les locaux de l'accueil Welcome Desk et permette là d'offrir un service et un accueil spécifique à ces étudiants. Il y a évidemment aussi un travail qui est fait pour un suivi médical et social qui soit appropriés, puisqu'ils sont soumis à des obligations de visite médicale particulières. Mais tout ça est organisé et fonctionne maintenant avec une vraie habitude, donc sans poser de problèmes spécifiques. Et c'est devenu un marqueur aussi très important, puisque l'attractivité des universités se mesure aujourd'hui à l'international, à leur capacité à attirer des étudiants.
Sur un plan très pratique, qu'est-ce qu'il en est de la capacité d'accueil aujourd'hui des locaux des universités toulousaines ? On entend souvent dans les médias que l'université en France, il n'y a pas assez de locaux, qui sont trop vétustes, ou qu'il n'y a pas le matériel nécessaire, notamment informatique. Qu'est-ce qu'il en est à Toulouse ?
Alors, s'agissant des locaux, la situation est assez contrastée dans l'état du patrimoine, si on peut dire. À Toulouse 1, le patrimoine est en très bon état. À Toulouse 2 vient d'être totalement rénové. Donc là, on a aujourd'hui une qualité d'accueil tout à fait au niveau des standards internationaux. À Toulouse 3, la situation est plus complexe. Et il y a quand même pas mal de travaux qui sont en cours. Il y en a d'autres qui vont avoir lieu, puisque dans le cadre du plan campus, il y a plus de 17 opérations qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Donc on peut espérer que les choses s'améliorent. S'agissant de l'accueil quantitativement, on est à la limite, notamment à Toulouse 1,
de vos capacités.
Des capacités d'accueil, clairement. Et le nombre croissant d'étudiants, de ce point de vue, peut en quelque sorte inquiéter. En tout cas, il va falloir que des mesures puissent
trouver
être... Trouver des solutions, parce que c'est une vraie difficulté, notamment pour les campus en centre-ville, parce que, évidemment, la pression foncière est plus importante qu'ailleurs.
Et en ce qui concerne l'hébergement des étudiants, est-ce que là, il y a des problèmes particuliers ou est-ce que la situation est correcte?
Alors, l'hébergement qui est proposé par le CROUS, qui est un hébergement notamment à vocation sociale en quelque sorte, eh bien on a 7 lits pour 100 étudiants. Donc c'est vrai que là, il y a quantitativement un petit manque, même s'il y a eu un gros travail qui a été mené par le CROUS de rénovation, et qui continue d'ailleurs, de rénovation des cités universitaires. Il y en a beaucoup qui ont été véritablement remises complètement en état. Donc là, il pourrait y avoir un petit manque de ce côté-là. En revanche, le parc privé, lui, couvre plutôt bien les besoins. Alors c'est vrai qu'il y a une période de tension, le mois de septembre est toujours une période de tension particulière, mais ça se dessert ensuite assez rapidement. Donc on n'est pas sur un problème vraiment lourd.
Point essentiel, la notoriété nationale et internationale de nos universités. Quel est le tableau, quelle est la tendance ? On a parlé tout à l'heure lors du flash d'information du label IDEX, ce fameux label IDEX qui a été perdu à un moment donné. Puis là, on est dans une période probatoire pour le retrouver. Bon, ça serait bien de nous rappeler ce que c'est que le label IDEX et pourquoi à un moment donné, on a pu le perdre et pourquoi c'était très embêtant.
Bien sûr. Donc l'IDEX, ça s'appelle Initiative d'Excellence. C'est l'acronyme de l'Initiative d'Excellence, qui est un programme lancé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir par le Commissariat Général à l'Investissement et qui visait à l'émergence d'une dizaine d'universités de rang vraiment mondial en France. Et c'était soumis à la fois un certain nombre d'actions en termes de recherche, de formation, d'internationalisation et aussi une évolution de la gouvernance des universités. Il se trouve qu'à Toulouse, le projet qui a été mené a été jugé par le jury comme ne permettant pas une intégration assez forte des universités parties prenantes. Et donc, effectivement, on a perdu le label en mars 2016, avec immédiatement, parce qu'il y avait quand même un hiatus qui ne concernait pas que Toulouse, c'est-à-dire une différence entre la carte de la puissance scientifique et la carte des IDEX confirmés. Donc, le gouvernement avait fait savoir que si nous proposions un nouveau projet, on pourrait retourner devant le jury international. Donc on a fait une feuille de route qui a été validée dans les établissements en janvier dernier, qui a été acceptée par le gouvernement et le commissariat général à l'investissement en mars. Et on va redéposer un dossier IDEX en décembre pour un passage devant le jury international en mars prochain. Donc là, on est évidemment dans une phase de rédaction du dossier et d'affinement du projet. Il y a eu beaucoup de groupes de travail qui ont été mis en place au sein des établissements qui sont concernés. On considère qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes qui travaillent sur ce projet-là. Et donc, on espère vivement qu'on va arriver à raccrocher l'IDEX parce qu'encore une fois, c'est un label qui déclenche des financements, mais qui est aussi un label en tant que tel de reconnaissance important.
Oui, et au-delà de nos frontières même.
Oui, bien sûr, puisqu'il y a des programmes un peu similaires qui ont été mis en place, notamment en Allemagne. Et donc, aujourd'hui, on peut avoir des universités qui vont dire qu'elles veulent travailler avec des universités labellisées.
Alors, pour pousser dans cette direction, si on faisait un tableau des points forts et des points faibles aujourd'hui de nos universités, quel tableau vous brosseriez ?
Alors, l'un des points forts, c'est l'omnidisciplinarité, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à Toulouse, vous pouvez quasiment tout faire. L'ensemble des disciplines sont représentées, ou quasiment l'ensemble des disciplines sont représentées. Ce qui veut dire que ça génère une attractivité nationale très importante. Il y a toujours un solde d'étudiants entrants dans l'académie plus fort, ou non, un solde positif, pardon. C'est-à-dire qu'on a plus d'étudiants entrant dans l'académie que d'étudiants sortants. Et si on affine, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de très bons étudiants entrants, notamment du fait de la présence d'écoles sélectives.
Je l'évoquais tout à l'heure, entre autres.
Donc ça, c'est quand même un point fort, cette omnidisciplinarité. Il y a aussi un potentiel scientifique avec la présence, je le disais tout à l'heure, d'au moins 6 organismes de recherche nationaux, puis des laboratoires qui sont extrêmement reconnus. On a une quinzaine d'équipes qui sont aujourd'hui dans les toutes premiers rangs mondiaux. Il y a au moins 35 ou 40 équipes qui sont là aussi avec une reconnaissance internationale très marquée. Donc vraiment un potentiel scientifique extrêmement important et qui génère une vraie reconnaissance. Si on prend les points faibles ou d'amélioration, il y en a. Moi, j'en vois un qui est spécifique peut-être au site, c'est que notre offre de formation, elle est encore trop peu internationalisée au sens où on n'a peut-être pas assez de diplômes qui sont entièrement en anglais. Alors, il y a eu beaucoup de progrès sur ce terrain-là. On y travaille puisque l'Université fédérale a mis en place un programme de formation des enseignants. Et donc, on pense pouvoir progresser assez rapidement sur ce terrain. Et un deuxième point faible, alors qui là est peut-être plus national, c'est par rapport aux universités anglo-saxonnes ou aux universités asiatiques aujourd'hui, la qualité globale de nos campus. C'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Asie, vous avez des campus totalement intégrés avec le logement sur place, des équipements sportifs de très bon niveau, des équipements culturels, le tout intégré dans un même lieu. Ça, on n'a pas vraiment tellement su faire en France en général. Et donc, on est peut-être en termes d'accompagnement des étudiants un peu en retard par rapport aux standards internationaux.
Alors justement, l'excellence et la renommée de nos universités, de nos écoles d'ingénieurs ou de commerce d'ailleurs, participent au rayonnement et à l'attractivité de la métropole toulousaine. Quelle relation vous avez avec la ville de Toulouse, Toulouse Métropole et ses communes, avec le monde de l'entreprise, de la recherche, de la culture, avec les autres universités françaises et étrangères? Je suppose qu'il y a des partenariats. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de tout ça?
Alors, s'agissant d'abord des relations institutionnelles, notamment avec Toulouse Métropole, elles sont excellentes. On travaille beaucoup sur le terrain de la culture scientifique et technique et de faire connaître cette culture à travers l'animation du Quai des Savoirs notamment, mais pas seulement, prochainement la Nuit Européenne des Chercheurs, etc. Donc, beaucoup de travail sur ce terrain. Ils sont aussi très intéressés par le travail qu'on fait, on l'évoquait tout à l'heure, sur la question de l'étudiant entrepreneur. Et de manière générale, il y a une volonté des universités de servir les territoires sur lesquels elles sont, de proposer l'expertise qui peut exister grâce à la recherche. Et donc, on travaille aussi sur des orientations pour les politiques publiques, des études que l'on fait pour les différentes collectivités. Et donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on formalisera prochainement avec la signature d'une convention entre la métropole et l'Université fédérale. Avec le monde de l'entreprise, il y a aussi énormément de relations qui se font beaucoup au niveau des laboratoires de recherche, qui se font aussi au niveau des formations avec, évidemment, les stages qui sont extrêmement importants, avec tout un travail sur l'insertion de nos étudiants qui nous conduit à être en relation permanente avec les entreprises. Et on va essayer d'identifier dans le cadre du projet IDEX justement un certain nombre de domaines sur lesquels on travaillera peut-être plus spécifiquement parce qu'il y a à la fois l'intérêt industriel et les forces en recherche et en formation.
Et puis, alors, éventuellement, avec d'autres universités, s'il
y a... Oui, alors, bien entendu, hein, il y a... Alors, les partenariats internationaux, c'est devenu fondamental, puisque les mobilités étudiantes sont de plus en plus importantes. On a aujourd'hui plus de 1500 partenariats dans les divers établissements avec les universités étrangères. Beaucoup sur de l'échange d'étudiants, mais pas seulement. Il y a aussi une quinzaine de structures de recherche internationale qui impliquent des laboratoires toulousains. Donc, c'est évidemment... Cette internationalisation, elle est extrêmement importante. Vous avez 92 doubles diplômes avec des universités étrangères, des diplômes français qui sont délocalisés dans des pays étrangers, on en a 8. Donc, vous voyez qu'il y a un impact très très important sur ce terrain-là. Et les coopérations avec les universités françaises, notamment celles de la partie orientale de l'Occitanie, sont elles aussi extrêmement importantes, surtout sur le terrain de la recherche.
Un très grand merci à vous, Philippe Rimbaud, pour cet échange et votre venue à Métropolez-vous, faire l'état des lieux des universités toulousaines. C'était un vaste sujet. Nous n'en avons certainement pas traité tous les aspects. J'espère toutefois que nous avons réussi à vous donner le tableau le plus juste et le plus exhaustif possible de la situation et des perspectives actuelles. Avoir un pôle universitaire complet et de qualité est un atout de première importance pour une métropole, pour ceux qui y vivent et y étudient bien sûr, mais aussi pour le rayonnement et l'attractivité de notre territoire. Soyons donc attentifs à tout ce qui se fait dans ce secteur. Pour cela et pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site web de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, www.univ-toulouse.fr, ou vous rendre sur place à l'accueil de l'Université fédérale au 41 des allées Jules Guesde. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, Métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.